Cela aurait dû être le début d'une nouvelle manière de gouverner, le lancement du Conseil national de la refondation ce matin près de Paris. Ce conseil, au nom inspiré de la résistance, jugé un peu trop pompeux par certains, ce conseil a été voulu par le président, mais ce matin, les invités les plus importants manquaient à l'appel. Bonjour Jean-Philippe Moinet.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Revue Civique. Merci d'être avec nous pour parler donc des débuts difficiles de ce Conseil national de la refondation. Un sondage du Journal du Dimanche montre qu'un Français sur deux n'en a jamais entendu parler. Les partis d'opposition n'étaient pas là ce matin. Les syndicats CGT et FO non plus. Les journalistes, eux, sont dehors. Ils ne peuvent pas assister au débat. À qui s'adresse ce rendez-vous en fin de compte ?
En fait, vous avez raison de poser la question. Est-ce que ça sera une structure fumeuse ou une structure fameuse dans l'opposition? Alors, ça s'adresse à trois types d'acteurs. Et c'est vrai qu'au niveau des acteurs politiques, il n'y a pas de surprise, les opposants s'opposent et la majorité présidentielle soutient cette initiative. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe au niveau d'autres cercles d'acteurs qui font aussi la société française, puisque ça n'a échappé à personne que la France a traversé depuis 10-15 ans une défiance assez généralisée et accentuée et une crise civique de participation et notamment aux élections. Et donc, du côté des acteurs de la société, il peut y avoir un répondant, peut-être pas symboliquement aujourd'hui, même si les syndicats, même s'il y en a des absents, il y a quand même une majorité d'associations et de syndicats présents, mais du côté aussi des cercles de la participation citoyenne dans les territoires. C'est vrai que c'était un maillon faible aussi de la gouvernance d'Emmanuel Macron, était l'absence de liens systématiques ou systémiques avec les territoires. Là est annoncée l'idée, et les fédérations d'élus territoriaux, départements, régions et municipalités sont présents au niveau de leurs dirigeants, pour trouver finalement un logiciel qui permettrait un peu, beaucoup ou modérément de réconcilier finalement les Français avec l'action politique.
D'ailleurs, le président a annoncé ce matin qu'il y aurait, à partir de la semaine prochaine, une grande consultation sur le terrain. Il a aussi dit que certaines des idées évoquées pourraient être soumises à référendum. Est-ce que, selon vous, ces propositions sont à même de susciter un peu plus d'intérêt que le rendez-vous et le cadre formel qui est lancé aujourd'hui ?
Oui, et là je dirais nettement oui en termes d'attente. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années avec la Revue Civique et différents acteurs, des think tanks, des instituts d'études sur les attentes de l'opinion publique en matière de consultation et de participation. Et elle est très forte. Donc les Français s'intéressent à la politique. Ils ne participent que modérément désormais aux élections, et c'était notamment le cas y compris aux élections locales, régionales et départementales 2021, on se souvient, un record historique, hein, 66% de mémoire d'abstention. Donc il y a une bouderie nationale vis-à-vis des élections, mais il y a une attente quand on leur pose des questions sur des sujets qui les concernent. Et la Revue Civique, à l'origine, il y a une dizaine d'années, souhaitait qu'il y ait des rendez-vous réguliers institutionnalisés où les Français seraient amenés à s'exprimer sur des contenus, sur des sujets précis, concrets, où ils donnent leur avis après aux politiques d'en tirer les enseignements. Mais je pense qu'il y a un logiciel démocratique à rénover. J'étais de ceux qui pensent, et qui pensent toujours encore plus aujourd'hui, qu'il faut aller loin dans l'innovation et dans la rénovation du logiciel démocratique français et ne pas s'en tenir à une surface de discussion nationale.
Est-ce que c'est aussi un problème d'intermédiaire, si je peux dire, parce que ce matin, Emmanuel Macron, quand il a parlé des instances qui étaient absentes, a dit d'abord qu'elles avaient tort, mais qu'elles avaient mandat à représenter certaines personnes. C'est le cas pour les partis d'opposition ou encore pour les syndicats. Est-ce que c'est aussi à ce niveau-là que se joue cette difficulté entre l'intérêt dont vous nous parliez et puis la participation à des instances officielles ?
Oui, vous avez raison. Et de ce point de vue-là, les torts sont largement partagés entre divers acteurs. Et ce n'est pas forcément que les politiques nationaux, en l'occurrence le président de la République, qui est responsable d'une situation de faiblesse, qui est presque culturelle, des corps intermédiaires quand on compare avec certains pays voisins européens, où on voit que la démocratie beaucoup plus active est représentative au niveau des corps intermédiaires, soit territoriaux, soit sociaux, par exemple. Et on voit la faiblesse des syndicats, hein, en termes de syndicats de salariés, en termes de représentativité par rapport à de grands pays européens. Et donc, il y a tout un chantier, finalement, de renouvellement ou de rénovation de notre démocratie. qui passe par, effectivement par le renforcement de ce qu'on appelle les corps intermédiaires et de leur représentation territoriale.
Les absents prennent-ils un risque politique selon vous, les syndicats et les partis d'opposition ?
Excusez-moi, j'ai le début de votre question.
Est-ce que ces absents dont on parle prennent un risque politique en ne venant pas ce matin ?
Ça dépendra de l'ampleur de la transformation du logiciel, mais c'est vrai qu'il peut paraître quand même paradoxal de souhaiter plus de discussions, moins de verticalité, moins de jupitérisme quand c'est personnalisé sur Emmanuel Macron, et puis de ne pas être là quand il s'agit d'ouvrir un petit peu la boîte à créativité démocratique. Comme l'a dit tout à l'heure d'ailleurs Emmanuel Macron, il faut prendre cette question au sérieux. Et si lui-même et d'autres prennent cet enjeu au sérieux, et je pense qu'on en est en France à une situation où il faut prendre, quelles que soient ses idées politiques, cette question démocratique au sérieux, ne serait-ce que pour éviter d'autres fractures et la montée des radicalités dont on voit le caractère multiforme, je pense que si tout le monde prend cette question au sérieux, ce serait mieux. Et les absents de ce point de vue peuvent avoir tort.
Est-ce qu'en attendant, il peut y avoir un effet pour Emmanuel Macron, un effet démobilisateur par exemple, après l'annonce de ce grand rendez-vous qui finalement se retrouve un peu à démarrer en demi-teinte pour le moins ?
Démobilisateur dans le sens où ce serait pas assez puissant dans les partenaires réunis par exemple, c'est
par
ça
exemple
que vous voulez dire ? Ou alors ça peut être démobilisateur ou inversement annonciateur de la nécessité, y compris qu'il peut observer par l'absence qu'on a évoquée, d'aller plus loin. Et je pense que c'est un peu tôt pour dire, d'abord pour avoir un jugement global de ce CNR dont le contour est peut-être pas totalement défini. Et je
qui pense ne fait qu'il que commencer, pas. Qui peut bouger encore aussi peut-être.
Processus qui peut bouger. Et ce qui m'a intéressé, c'est que apparemment, une prise de date a été prise déjà aujourd'hui pour prochainement, j'ai compris que c'était la semaine prochaine, pour faire focus sur l'enjeu de la consultation citoyenne.
Donc avec d'autres rendez-vous qui sont déjà pris, je vous remercie beaucoup Jean-Philippe Moinet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la revue Civique.